des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Actualité. Alexandre Dubé.
Je trouve que Simply the Best, ça présente bien Alexandre Dubé. Là.
Écoute, t'entends des loges en ce beau jeudi. Merci Antoine.
Mais oui.
Hey, je vais revenir plus souvent.
Mais oui, c'est ça. T'aimes ça, hein? Quand je remplace Benoît.
Comme Benoît n'est pas aussi gentil avec moi. Il m'appelle l'oiseau de malheur. Écoute.
Ouais, ben, mais de moins en moins, parce que t'as des beaux bilans à nous présenter.
Ben, c'est un bilan stable. On est sur une espèce de long plateau de 800 quelques cas, hein, qui s'est
depuis... OK, oiseau du plateau, de bord.
Oiseau du plateau, du plateau Mont-Royal. Non, je suis loin de ça, mais je suis plus sur le plateau des Laurentides. On est à 858 cas, Antoine, aujourd'hui, okay. Sur 32 000 tests environ. Donc, ça s'étire, on a de la difficulté à le faire baisser davantage. 16 décès s'ajoutent au bilan. Par contre, les hospitalisations sont en baisse de 22 pour un total de 633. 8 personnes de moins aux soins intensifs pour un total de 122. On a administré 8300 doses. Et je regardais les chiffres dans les régions parce que ça baisse à Montréal. Mais là, je me disais, bon, okay, ça baisse à Montréal, ça doit monter ailleurs. Encore un bilan aussi élevé que ça. On est passé de 42 à 113 à Laval. Alors, on surveillera ça. Il y a une petite montée des cas du côté de Laval. Point de presse du ministre de la Santé, Christian Dubé, à 13h. Il va être accompagné du directeur national de santé publique, le docteur Horacio Arruda.
Il n'y a pas une éclosion aussi à Chicoutimi?
Donc, écoute, ça... Bonne question. Faudrait que je voie les chiffres.
Non, mais c'est parce que tu as parlé de la région. C'est pour ça que je... Ça m'est revenu à l'esprit.
Oui, oui, oui.
Donc, c'est important de se faire vacciner. Et moi, je trouve que c'est tellement réjouissant, cette campagne de vaccination. Mais il faut réserver. Est-ce que c'est compliqué?
Ah, ben, t'as entièrement raison sur le fait que c'est très réjouissant. On le sentait d'ailleurs dans le ton, dans l'expression du premier ministre Legault lorsqu'il nous a annoncé ça au Stade olympique un peu plus tôt cette semaine. Donc, les réservations commençaient à 8h ce matin. Pour ce qui est des aînés de la grande région de Montréal, ils sont priorisés, mais ceux de partout au Québec peuvent s'inscrire aussi à compter d'aujourd'hui. La façon la plus simple, c'est vraiment de passer sur le site web, québec.ca/vaccin-COVID. Il y a aussi une ligne téléphonique qui est disponible pour prendre rendez-vous, mais Québec encourage vraiment les gens à réserver en ligne. Donc, la suite des choses, d'ici à peu près 2 semaines, là, le gouvernement espère avoir fini la vaccination des 85 ans et plus, prévoit étendre la vaccination aux catégories suivantes, donc 80, 75, 70 ans. Et là, il y avait toute la question entourant les proches aidants, les conjoints aussi des gens de 85 ans et plus, parce que là, bon, si par exemple tu vaccines la personne de 85 ans et plus, mais pas nécessairement son conjoint ou sa conjointe, son aidant naturel, est-ce que ça vient pas un peu atténuer là, les efforts de vaccination? Là, on a appris que les proches aidants et les conjoints d'une personne de 85 ans et plus vont pouvoir se faire vacciner contre la COVID en même temps qu'eux, même s'ils n'ont pas l'âge requis. La seule spécificité au niveau de l'âge, c'est qu'ils vont devoir avoir plus de 70 ans. Alors, de la façon que ça va fonctionner, c'est que ces proches aidants, ce conjoint, cette conjointe vont pouvoir s'inscrire en même temps que l'aîné de 85 ans et plus, préférablement, je vous rappelle, sur le site web, sinon sur la ligne téléphonique. Petite précision aussi du ministre de la Santé, le stationnement va être gratuit au site de vaccination de masse aussi pour recevoir un vaccin contre la COVID. On sait qu'il y avait beaucoup d'enjeux de déplacement. Il y a cette mobilité réduite pour plusieurs aussi qui peut venir compliquer, mais c'est une précision du ministère de la Santé. Et parlant de vaccination, Antoine, ben Moderna va accélérer ses livraisons au Canada en mars. C'est ce que nous a confirmé le premier ministre Justin Trudeau à la Chambre des communes. Donc, la pharmaceutique va livrer 460 000 doses du vaccin contre la COVID au cours de la semaine du 8 mars et 840 000 doses au cours de la semaine du 22 mars. À tout ça, ben on ajoute Pfizer, qui va livrer 1,5 million de doses dès le début du mois d'avril. Et compte tenu de l'augmentation des livraisons, ben le gouvernement réitère que tous les Canadiens qui le souhaitent vont pouvoir être vaccinés contre la COVID d'ici la fin du mois de septembre. Et Moderna a spécifié aussi hier qu'un investissement supplémentaire pour augmenter ses capacités mondiales de production a été effectué.
OK. Ah ben, peut-être que la promesse de Justin Trudeau, finalement, va être respectée.
C'est... Ben, on en a douté. Puis, écoute, on n'est pas les seuls. Il y avait ce fameux 6 millions de doses d'ici, quoi, c'était fin...
Mettons qu'on doute encore, mais au moins, ça bouge.
Ben, écoute, c'est sûr que c'est déjà beaucoup plus rassurant là, de voir ces chiffres-là. Est-ce que M. Trudeau serait tenté, à ce moment-là, d'aller en élection ce printemps? Je te lance la question, toi, qui est un fin connaisseur de la scène politique.
Je sais que d'autres fins connaisseurs, comme Thomas Mulcair, disent que oui. Qu'il essaie justement de dégager la piste de décollage actuellement. et il nommait d'autres dossiers qu'il essaie de régler, là, le français, tout ça, ou au moins faire mine de régler. Puis il dit, une fois que ça va être dégagé, ben on décolle, on s'en va. Donc, autobus et avion. Mais je sais pas. Il faut que les chiffres soient très bons, puis pour l'instant, même s'ils sont bons, tu sais, il y a quand même de l'ambivalence. Mais on parle du V. Le V principal, c'est vaccination, mais il y a variant aussi. Ça, c'est le V déprimant. Est-ce que tu penses que à Montréal, on va réussir à endiguer les variants britanniques, par exemple?
On a fait le point, et c'est la directrice régionale de la santé publique de Montréal qui nous disait que de 8 à 10 % des nouveaux cas de COVID présentement recensés dans la métropole sont reliés directement aux variants britanniques. Donc là, je chiffrais un peu davantage. Docteur Drouin qui a précisé que tous les cas font l'objet d'un criblage. On sait, là, dans le Grand Montréal, à Montréal, on crible systématiquement les cas positifs de COVID dans le but d'endiguer cette propagation-là du variant. On nous rappelle qu'il y a 22 éclosions reliées au variant dans l'île. On en recense entre 350 et 400 cas de COVID quotidiennement. Encore aujourd'hui, on est aligné à peu près sur ces chiffres-là. Alors qu'au Québec, le bilan vérifié toujours là, pour ces variants, 23 cas confirmé, 602 cas présomptifs détectés par criblage et qui seront confirmés par un séquençage également. Alors, le portrait se précise, augmente également de jour en jour. Gardons un œil sur ces variants-là parce que c'était peut-être un peu l'angle mort là, de cette deuxième vague. Si on veut espérer ne pas en vivre une troisième.
Heureusement, d'ailleurs, qu'il y a des nouvelles mesures pour les élèves du primaire après la relâche, hein?
Oui, parce que la relâche, ça aussi, c'était le gros point d'interrogation. Il y a énormément d'inquiétudes. Oui, c'est vrai. Oui. Mais tu avais des bonnes raisons de l'être aussi, Antoine, tu sais. Mais dès le retour de la relâche, c'est là qu'on va voir, bon, de un, est-ce que les gens ont respecté les mesures pendant ces quelques jours de congé où on aura été tenté de se rassembler dans des chalets, etc., ou de se promener d'une région à l'autre sans respecter, par exemple, les contraintes de notre code de couleur. Alors, si quelqu'un, si une famille habite en zone rouge et s'en va faire du ski au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ben les gens peuvent pas aller au restaurant, c'est clair. Mais est-ce que les gens vont le respecter? C'est ça la grande question. Alors, inquiet des éclosions dans les écoles, Québec va imposer de nouvelles mesures qui vont toucher vraiment les élèves du primaire à compter du retour de la relâche, donc le 8 mars prochain. Ce sont nos collègues de TVA Nouvelles qui ont appris que le port du masque de procédure va être obligatoire en tout temps à l'école, même chez les tout-petits, dans la grande région de Montréal. Et ça, c'est une recommandation faite par la santé publique. Le fameux masque chirurgical, le masque de procédure, le masque bleu là, qu'on voit, c'est obligatoire pour les élèves de 5e et 6e année et les élèves du secondaire. Et ailleurs dans la province, pour les zones rouges, ce sera obligatoire, mais à partir du 15 mars. Il n'y aura pas de changement pour les jeunes qui se trouvent en zone orange, c'est la distinction qu'on fait. Et le gouvernement assure qu'il va pouvoir fournir des masques aussi de plus petite taille pour les élèves plus jeunes, parce que si tu leur donnes un masque pour adultes, ben, le masque va flotter, ça ne sert pas grand-chose, il n'y aura pas une grande étanchéité là-dessus pour les gouttelettes. On est dit qu'il y a à peu près 30 % des cas de COVID actuellement qui se trouvent dans les écoles. Et encore une fois, je ne veux pas être fatigué avec ça, mais le fameux variant, notamment le variant britannique, inquiète.
Le Parti conservateur est surprenant. Parce qu'il réclame que le gouvernement Trudeau suspende temporairement l'obligation pour les voyageurs de faire une quarantaine à l'hôtel, mais il me semble qu'on réclame ça depuis des mois. Puis finalement, on l'a annoncé il y a un mois, ça a été long avant de mettre ça en place. Puis à cause des portes qui se verrouillent pas, puis bon, il y a eu des cas déplorables, là, dont une femme qui a été agressée sexuellement, semble-t-il. En tout cas, elle a déposé une plainte. Là, le Parti conservateur dit faut suspendre. Je comprends pas.
Oui, non, ça fait réagir, c'est clair. Et cette demande-là, tu l'as abordée brièvement. Ça, dans la foulée de deux histoires troublantes d'agression sexuelle. La première, c'est la presse qui nous dévoilait mercredi matin qu'un homme a été formellement accusé d'avoir agressé une jeune femme de 24 ans. Et elle témoignait, là, de façon anonyme dans l'article, j'ai lu ça, j'en reviens pas. Là. Ça s'est passé au Sheraton de Dorval, où tous les deux étaient en quarantaine obligatoire. C'est une histoire épouvantable, ce qu'elle a vécu cette jeune femme de 24 ans-là. Parallèlement à tout ça, il y a aussi en Ontario, la police régionale Dalton, qui a révélé aussi hier avoir arrêté et accusé d'agression sexuelle, tentative d'extorsion aussi, un agent de quarantaine qui provenait d'une firme de sécurité privée, qui lui aurait cherché à voler une femme et l'agresser sexuellement au moment où il devait vérifier si elle respectait sa quarantaine à domicile. Deux histoires choquantes. Et à ce moment-là, les conservateurs demandent que le fédéral suspende l'obligation pour les voyageurs qui arrivent au pays en avion de demeurer à l'hôtel le temps de mettre en place des mécanismes de sécurité un peu plus poussés. Et dans le même ordre d'idée, Antoine, l'opposition officielle demande aussi un meilleur tri des agents de sécurité chargés de surveiller les gens en quarantaine à domicile. Maintenant, ça nous amène à nous poser la question suivante. Le gouvernement a quand même eu un mois à peu près pour mettre en place toutes ces mesures-là. La semaine dernière, les hôtels ont eu que quelques jours après avoir la confirmation également de leur sélection. Qu'est-ce qui a été aussi long à mettre en place et pourquoi, ultimement, et c'est un peu le questionnement dans l'esprit de plusieurs, pourquoi les lacunes sont quand même nombreuses? On parle de la ligne téléphonique qui n'a pas fonctionné et là, voilà qu'on apprend ces deux histoires complètement troublantes.
C'est ça. Puis je sais pas s'il faut suspendre, là, mais on peut peut-être corriger les erreurs, comme les portes qui se verrouillent pas, mais en tout cas. Parlons enfin, rapidement, du Viagra, parce qu'on croyait que c'était réservé aux Hugh Hefner de ce monde. Mais non, finalement, c'est, je veux dire, des personnes en peignoir et d'un certain âge. Mais non! Les jeunes aussi. C'est Nicolas Lachance qui nous apprend ça du bureau d'enquête dans le journal ce matin, puis à GIA ce soir, je pense.
Parlons Viagra ensemble, Antoine, si tu veux bien, là. Hein? Okay. Ensemble, là, c'est 11h58, un jeudi. Non, mais je vais vous lancer l'invitation. C'est effectivement, c'est dans le journal ce matin, c'est en une. Ce soir, nos collègues de GIA se penchent sur la question aussi à 21h à TVA. C'est que la consommation de Viagra, puis toutes sortes de faux médicaments pour contrer la dysfonction érectile, ça explose au Québec depuis les cinq dernières années. Et là, il y a des milliers de jeunes hommes qui mettent de un leur santé en danger en mélangeant ces petites pilules-là achetées sur la rue de je sais pas trop qui avec d'autres drogues. Ok, donc des jeunes de 18 à 40 ans qui sont accros à ça parce qu'ils consomment, par exemple, de l'ecstasy, de la coke, de la marijuana, des grandes quantités d'alcool, de la kétamine,
quel cocktail fou, hein?
Oh oui. Et là, en plus de tout ça, ben là, ils achètent sur le marché noir des soi-disant pilules pour contrer la dysfonction érectile. Alors, tu t'imagines le cocktail assez explosif et ces mélanges sont hyper dangereux. Et on le disait dans l'article et on le verra ce soir. Ils ont provoqué des décès partout dans le monde, des problèmes cardiaques, des érections douloureuses qui durent des heures, voire même des jours, Antoine. Alors, ça fait réagir et ce sont des jeunes de 18 à 40 ans dans la fleur de l'âge.
Oui, c'est à lire et à écouter ce soir. Merci beaucoup, cher Alexandre.
Bon, cher ami, on se reparle bientôt.
À demain même.
Ah, à demain, bon, ben à demain.
Oui. Salut, à bientôt.
Bye-bye.